Bonjour, bonjour, Yves au micro pour de nouvelles émissions de 24 notes secondes qui ne dérogera pas à la tradition et qui par conséquent vous apprendra ou vous rappellera que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art aussi particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale et bien les petites images qui bougent sur votre téléphone. Oui, allez, c'est bien parce que je suis un peu indulgent. Ce jour, dans 24 notes secondes, eh bien, nous allons consacrer 30 minutes à 130 films, c'est-à-dire une gageure, puisque nous allons évoquer la carrière de James Mason, certainement l'un des acteurs britanniques les plus fins, les plus brillants de tous les temps, mais ne le sont-ils pas tous, mais James Mason l'était encore plus que les autres. Il était né le 15 mai 1909 à Huddersfield, dans le Yorkshire. Vous allez pouvoir aussi apprécier mon accent anglais. Et après des études d'architecture à Cambridge, on se demande bien pourquoi, eh bien, il comprend qu'il est fait pour la scène et pour être acteur. Et comme tous les grands acteurs anglais, comme tous les acteurs anglais, il commence évidemment par le théâtre, rejoignant dès 1931 la Old Vic Company, où il joue sans doute, ma petite fille, je ne le dis pas, des œuvres de Shakespeare. Et sa première incursion au cinéma est plutôt malvenue, puisqu'en 1934, il est renvoyé d'un plateau de tournage. Son premier film date de 1935. Je vous passe un peu le détail. Sinon, nous ne pourrons même pas écouter de musique. Et pendant une dizaine d'années, eh bien, James Mason devient l'une des grandes stars du cinéma britannique. Il tourne sous la direction des plus grands réalisateurs et joue avec, excusez du peu, Laurence Olivier, Vivienne Leigh, Deborah Kerr, Michael Redgrave, Ralph Richardson. Et oui, tous ces gens-là sont anglais, même si après, ils ont été très connus pour leur carrière américaine. Et le premier gros succès international de James Mason, eh bien, survient en 1947. Le film s'appelle 8 heures de sourcils, Old Man Out. Il est signé de Carol Reed. Et comme j'ai déjà été assez bavard, je vous en dirai quelques mots, mais on va d'abord écouter un extrait de sa bande originale. Elle est signée de William Alwyn. 8 heures de sourcils, mais dans 24 notes secondes. de larges extraits de la bande originale signée de William Halloween pour 8 heures de sursis, un film de Carol Reed tourné en 1947 avec James Mason dans le rôle principal qui interprétait le rôle d'un chef du Sinn Féin, c'est-à-dire une organisation, entre guillemets, terroriste qui luttait pour l'indépendance de l'Irlande quelque part au début du siècle. Enfin, le Sinn Féin existe toujours, mais le film, lui, se passe quelque part au début du siècle. Et le siècle, c'est le 20e, ai-je besoin de le préciser. Et une histoire donc assez tourmentée qui présentait sous un rôle finalement très sympathique. C'était logique, puisque James Mason, en 1947, était déjà une grande vedette du cinéma britannique, qui présentait sous un jour très sympathique, eh bien, entre guillemets, donc un terroriste irlandais qui relevait pour Carol Reed, le réalisateur, d'un certain courage récompensé puisque le film obtient un très très gros succès. Ce fut pour Carol Reed une première marche vers la gloire internationale qu'il connut avec le fameux Troisième Homme, tourné quelques années après avec Orson Welles dans le rôle principal et une musique signée Anton Karas qu'on n'a pas oublié. Quant à James Mason, eh bien, ce fut paradoxalement à la fois un très gros succès commercial et son dernier film britannique puisque des démêlés avec la production, la firme cinématographique Rank l'obligèrent, ou en tout cas l'incitèrent à quitter le Royaume-Uni pour les États-Unis. Il resta 2 ans sans tourner pour des raisons juridiques assez obscures et puis il commença une carrière américaine qui fut brillante est un mot presque trop faible, qui fut ultra brillante. Son premier film américain était un film de Max Ophuls, encore un exilé. Ça s'appelait Coat en anglais. Je ne sais plus comment ça s'appelait en français. Mais ça n'est pas grave. Et puis ensuite, eh bien, on pourrait aligner les chefs-d'œuvre, mais on va pas le faire pour écouter de la musique. On va juste picorer l'affaire Cicéron. Five Fingers, on est en 1952 avec Daniel Darieux. On va picorer aussi Pandora de Albert Lewin avec Ava Gardner, tourné en 1950, donc quelques années auparavant. Et on va aussi picorer, bref, je ne sais pas trop, le Jules César de Joseph Mankiewicz, tourné en 1953, évidemment, une adaptation de Shakespeare dans laquelle l'anglicisme James Mason était tout à fait saisissant. Et puis, en 1954, on verra Une étoile est née, pour lequel James Mason obtint sa première nomination à l'Oscar, George Cukor avec Judy Garland, et 20 milieux sous les mers. Alors là, 20 milieux sous les mers de Richard Fleischer, c'est un film de mon enfance, 1954. Certes, je n'étais pas encore né, bah si, j'étais pas encore né. Alors, quoi ? Et par contre, je me souviens absolument d'une scène avec une pieuvre absolument magnifique, tout en plastique, rien à voir avec les effets numériques tout pourris qu'on a aujourd'hui. Une pieuvre signée Disney, il faut bien le reconnaître, et James Mason dans le rôle du capitaine Nemo. Que vous dire de plus, sinon un silence. Pour autant, eh bien, les chefs-d'œuvre restaient encore à venir. Et l'un des chefs-d'œuvre dont James Mason fut partie prenante dans les années 60, eh bien, sa musique, vous allez sans doute la reconnaître. Sa musique, c'est ça. Thank you. Le Fandango de Bernard Herrmann, on voit se dérouler un générique signé de Saul Bass, et puis après on voit un bus, la porte se referme devant un homme tout à fait offusqué, l'homme c'est Alfred Hitchcock, et le film c'est le début de North by Northwest, en français, bref. La mort aux trousses, un film d'Alfred Hitchcock, donc tourné en 1959 certainement, la quintessence de la période américaine d'Alfred Hitchcock, un film dans les principaux rôles duquel, outre James Mason, évidemment, on retrouvait Cary Grant, Eva Marie Sainte, Martin Landau, Léo G. Carroll. Bref, une petite merveille de plus de 2 heures où chaque scène presque est restée anthologique. Les cinéphiles se souviendront bien évidemment d'une scène tout à fait étonnante et baroque où l'on voit Cary Grant attendre dans le désert un homme qui ne viendra jamais, puisqu'en fait, on va essayer de l'assassiner, mais on va essayer de l'assassiner en avion qui va pulvériser des pesticides. C'est un peu ironique maintenant, mais évidemment, Cary Grant va s'en sortir. Il recherche un homme, mais je ne vous en dis pas plus. Si vous avez eu la chance de ne pas avoir vu La mort aux trousses 10 fois, eh bien, vous allez vous précipiter, puisque ce film avec un scénario, ne l'oublions pas, absolument diabolique, signé du génial Ernest Lehmann. Mais après, j'arrête les génies, mais il est vrai que La mort aux trousses, c'est la quintessence, effectivement, de l'art hitchcockien, du suspense ironique. Un film, évidemment, pas terrifiant, mais d'une grande drôlerie. Cary Grant y est tout à fait excellent dans son personnage, un peu dépassé par les événements. Il y a une scène finale à la Monument Valley de... je ne sais plus dans quel état des États-Unis, pardonnez-moi, avec les statues géantes des présidents américains. Bref, c'est une merveille. Que vous dire de plus? Et puis James Mason, donc, il joue le rôle d'un méchant, très très méchant. Et il est excellent, comme beaucoup d'autres films de cette période américaine. Alors il y a pas mal d'acteurs britanniques qui passaient aux États-Unis, ont tourné, disons, dans des films un peu mineurs, ou en tout cas plus commerciaux. Certes, James Mason aura eu dans sa carrière américaine son lot de films commerciaux, mais il aura aussi eu son lot de films tout à fait excellents. Et La mort aux trousses, eh bien, reste certainement... avec Voyage au centre de la Terre et surtout avec 20 milieux sous les mers, reste certainement l'un de ses plus grands succès. Dans un genre tout à fait différent, bien on va rester à la fois dans la période américaine mais aussi britannique, puisque ce sera pour lui l'occasion de revenir au Royaume-Uni avec un film tourné en 1962 par Stanley Kubrick, qui était plutôt au début qu'à la fin de sa carrière, bien sûr. Un film qui causa à sa sortie un certain scandale, et c'est même peu de le dire, puisqu'il s'agit de l'adaptation à l'écran, la première, du roman de Vladimir Nabokov de Lolita, qui compte, soyons clairs, la passion sexuelle entre un vieux monsieur, interprété donc par James Mason, Humbert, oui, son prénom et son nom, c'est la même chose, et une jeune fille, mais alors une très jeune fille, puisqu'elle a 12 ans. Dans le film, c'est la tragique, je dirais, Sue Lyon qui interprète ce rôle-là. Je dis tragique puisqu'en fait, après ce rôle, elle le raconta d'ailleurs à de nombreuses reprises. Eh bien, elle tourna 1 ou 2 films, mais le poids scandaleux de Lolita pesa à la fois sur toute sa carrière, mais aussi sur toute sa vie d'actrice et de femme. Mais en fait, elle ne s'en remit jamais vraiment. Le tout, il faut bien le reconnaître, dans l'indifférence absolue de Stanley Kubrick, pourtant responsable. Aux côtés de James Mason et de Sue Lyon, il y avait aussi Shelley Winters, une actrice américaine à la gouaille bien connue, et Peter Sellers, dont on se souviendra sans doute, il ne l'était pas encore, mais qu'il fut ensuite l'immortel inspecteur Clouseau, de La Panthère Rose. La musique, elle était signée de Nelson Riddle, et on en écoute un extrait dans 24 notes secondes. Thank you. musique outrageusement romantique de Nelson Riddle pour un film qui ne l'était guère, à vrai dire romantique, mais le sujet ne s'y traitait pas vraiment non plus. Lolita, Stanley Kubrick, 1962, d'après Vladimir Nabokov, avec James Mason, notre héros du jour, dans le rôle d'Humbert Humbert, un personnage un peu lamentable, une histoire... Bref, un peu complexe. Évidemment, nous sommes en 1962, donc Stanley Kubrick avait largement gommé le sexuel explicite du roman de Vladimir Nabokov. Le public ne s'y retrouva pas, puisqu'évidemment, on est entre le scandale et la fascination, entre la répulsion et l'attirance. Ma foi, avec les années passées, et sont longues depuis 1962, eh bien, Lolita a trouvé toute sa place dans la carrière inclassable, tellement elle est exceptionnelle, de Stanley Kubrick, avec un nombre de films tout à fait faible, enfin très peu de films, mais tous à peu près de la même tenue. Et donc pour James Mason, l'occasion bien de retrouver l'Angleterre, puisqu'en fait pour des raisons pas forcément puritaine d'ailleurs, mais essentiellement financière, c'est là que le film fut tourné. Ensuite, eh bien, il alterna encore, évidemment, sa carrière alterna entre les États-Unis et l'Angleterre. Il fut l'interprète aussi bien de grosses productions que de films anglais plus confidentiels. Et on va rester dans les grosses productions en écoutant un extrait de la bande originale d'un film tourné en 1964, d'après ma petite fiche, c'est, oui c'est ça, 1964, pardonnez-moi, qui fut l'un des derniers péplums tournés, en tout cas dans cette époque-là. Il y avait eu Ben-Hur, Le Roi des Rois, Quo Vadis, que sais-je encore, le genre était à la mode, mais La Chute de l'Empire Romain, c'est le titre du film un peu prémonitoire, eh bien ce fut aussi la chute du genre. On avait pourtant réuni les plus grands, Anthony Mann à la réalisation, et puis à l'interprétation, Sophia Loren, Stephen Boyd, Alec Guinness, Christopher Plummer, Omar Sharif, non je t'ai plus, et évidemment James Mason. On avait mis 3 heures pour raconter La Chute de l'Empire Romain, mais La Chute de l'Empire Romain, c'est une expérience plus conceptuelle que artistique, si vous voyez ce que je veux dire, et du coup, eh bien, le public ne s'y retrouva pas. Par contre, musicalement, c'est certainement l'une des pièces maîtresses de la carrière de Dimitri Tiomkin, qui fut l'un des grands compositeurs de ce genre de film dans les années 60 avec Miklos Rossa. Et on va écouter, évidemment, un extrait de cette bande originale, La Chute de l'Empire Romain, une musique de Dimitri Tiomkin dans 24 notes secondes. Thank you. La splendide partition de Dimitri Tiomkin pour La chute de l'Empire romain, un film de Anthony Mann tourné en 1964 qui combinait à la fois justement l'atmosphère romaine avec les fanfares et puis l'influence chrétienne, puisque beaucoup d'historiens attribuent à la christianisation progressive de l'Empire sa chute. Mais évidemment, on n'a pas le temps d'en parler, on va se quitter avec un nouvel extrait musical. James Mason nous aura quitté, lui, le 27 juillet 1984 à Lausanne, en Suisse. Ça se faisait beaucoup pour les acteurs qui avaient réussi. Et dans sa filmographie, on trouve encore des titres de 1985. C'est dire que l'homme aura tourné jusqu'à son dernier souffle, ma foi. On ne peut que s'en féliciter, voir ses films. On se quitte avec un extrait de la bande originale d'un film de Franklin Schaffner tourné en 1978. Ça s'appelait « Ces garçons qui venaient du Brésil » et la musique, elle en était signée, je bafouille, de Jerry Goldsmith. Au revoir, see you, bye bye. Jerry, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui.